Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Mythiverse. Drôle d'oiseau celui-là. Sous ce que l'on pourrait qualifier de lunettes connectées interdynamiques ou quelque chose de genre, se cache le créateur de Facebook, connaissez, Mark Zuckerberg, qui vous présente son dernier projet, le Mythiverse. Il s'agit d'un monde parallèle numérique, un Internet incarné à l'intérieur duquel nous dit-il, nous allons travailler, nous divertir, voyager, pratiquer un sport, rencontrer des gens, mais des gens numériques bien sûr, peut-être même les aimer aussi, évidemment, consommer, c'est le but ultime. Dit autrement, cela veut dire que l'avenir pour M. Zuckerberg, c'est de quitter le monde réel pour vivre dans l'illusion. Comme si, faute de pouvoir défendre notre planète abîmée, nous n'avions pas d'autre option que de la déserter, la fuir, pour vivre heureux dans un monde numérique. Bientôt la fin du monde réel ? Il se passe des choses étonnantes. Ces questions doivent être posées. Que signifierait un tel développement pour notre société ? Cela est-il souhaitable pour l'humanité ? Comment se préparer au mieux à une telle évolution éventuelle ? Quoi qu'il advienne, si vous voulez mon avis, le Mythiverse ne va pas résoudre le problème, mais plutôt nous y enfoncer jusqu'au cou, peut-être même jusqu'au-dessus de la tête. Car la révolution à engager n'est pas une révolution technique. Nos téléphones nous donnent l'heure au dixième de seconde près, mais les gens sont toujours en retard. Nos ordinateurs corrigent nos fautes d'orthographe et notre conjugaison, mais la moitié des choses que nous lisons sont toujours sans intérêt et pleines de fautes. Aujourd'hui, notre monde déborde de puissance de calcul. Il y a des tonnes de gens intelligents, davantage de doctorats, plus de brevets, plus de groupes de réflexion, etc., etc. Il y a plus que jamais de cellules grises qui s'appliquent à résoudre des défis cruciaux de notre époque. Et alors ? Est-ce que nous sommes plus heureux pour autant ? Est-ce que le monde est meilleur ? Est-ce qu'il est plus beau au-dessus de vos têtes ? Avec le Mythiverse, peut-être qu'on vivra plus vite, plus loin, plus fort, mais on vivra faux. Où seront alors les vraies odeurs ? Celles du sucre, du miel, du blé coupé, de l'herbe mouillée, l'odeur pleine et rugueuse du fumier de l'étable, celle du bouillon d'os qui mijote à la cuisine. Où vont disparaître nos sens dans le monde de ce monsieur ? Et nos corps, et nos âmes ? Comment seront nos rapports charnels avec notre conjoint, mais aussi nos enfants et nos amis? Que devient l'homme écran s'il n'est plus acteur, mais seulement spectateur d'une vie numérique qui se joue devant ses yeux? Un égaré, en voie d'isolement, qui perd ce qu'il a de plus précieux, le lien avec l'autre. Une illusion, quoi. Et sait-il, Mark Zuckerberg, le désastre effrayant que cause la solitude? Lui, certainement pas, il est toujours entouré d'une meute de fans. Mais elle augmente le risque d'arrêt cardiaque, d'hypertension artérielle. Elle accélère les effets du vieillissement, augmente les risques de maladie d'Alzheimer. J'en passe et des meilleurs. Et puis, regardez les ravages que cet esprit de performance et de compétition fait tous les jours dans notre société. Rien qu'en France, 15 millions de boîtes d'antidépresseurs sont prescrites chaque année. Près de 4 Français sur 10 déclarent avoir fait un burn-out. Qui peut sérieusement prétendre que la dépression, le stress, le mal-être ne découlent pas en grande partie de cette vision strictement utilitaire de la vie que défendent les promoteurs de l'humain augmenté ? Augmenté de quoi, je me demande. Alors, le moins que l'on puisse dire, et que la crise du Covid n'a pas arrangé les choses, c'est certain. La distanciation sociale, les masques, les gestes barrières ont contribué à détruire la sociabilité traditionnelle. Le contact est devenu anxiogène. On loue le distanciel au travail. On ne se touche plus, on s'évite, on s'écarte, on s'isole. La médecine, malheureusement, se transforme elle aussi à une vitesse effrayante. la vaccination de masse et la transmission de données de santé via le QR code témoignent de son industrialisation, de sa numérisation. Fini le médecin de famille, l'ami d'autrefois qui partait soigner sous la pluie d'hiver en calèche, sans examiner si ceux qui le faisaient appeler pourraient ou non le rémunérer. C'était secondaire. Fini l'écoute du corps, la spécificité du diagnostic, l'individualisation du traitement. Place à la massification, à l'uniformisation, la standardisation des soins et de tout le reste d'ailleurs. Faudra-t-il bientôt parler de maintenance des corps plutôt que de soins ? On y vient. Mais si le cerveau de l'homme est considéré comme obsolète, si sa fragilité n'est plus la marque de sa nature mais un défaut que la technologie doit corriger, si son rêve est de devenir autre que lui sous prétexte d'être augmenté, alors l'homme n'a plus d'autre objectif que celui de se déserter, de se laisser remplacer par son double artificiel, comme celui avec lequel M. Zuckerberg est venu nous faire vivre dans son Metaverse, dans le fond qu'il y aille dans son paradis numérique. Moi, je m'en fiche, mais en ce qui me concerne, je préfère rester vivre ici, dans ce monde fragile, cabossé, limité, mais qui est le seul où l'on puisse mettre les deux pieds vraiment dedans. Mais est-ce une fatalité ? Je vous disais un peu avant que la révolution à engager n'est pas une révolution technique. Elle est d'abord philosophique et spirituelle, comme l'écrit le docteur Jean-Pierre Willem. Voici ce qu'il dit. Dans notre rapport au monde et avant tout notre appréhension de la nature, elle qui n'est pas une ressource pour nos économies, comme nous le considérons aujourd'hui, mais la source de la vie. Nous en avons fait un moyen pour la production, la croissance, le profit, l'augmentation de nos niveaux de vie. Mais la nature n'est pas un moyen. Elle est une fin en soi, et nous en faisons partie. On peut imaginer toutes les mesures que l'on veut, si l'on ne change pas radicalement à cet égard, si nous continuons à nous percevoir comme une entité séparée de la biodiversité, rien ne bougera vraiment. Voici ce qu'il a dit et je trouve cela vraiment très intéressant. En d'autres termes, ce n'est pas en fuyant le monde dans le Metaverse ou ailleurs virtuel qu'on le sauvera, ce monde. Mais concrètement, quoi faire ? Comment agir ? Oui, que faire ? Alors voici quelques idées. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Alors n'hésitez pas à m'éclairer de vos lumières en laissant un commentaire. D'abord, nous pouvons soutenir en s'impliquant personnellement, quand on le peut, dans des initiatives sincères pour un monde réellement plus écologique, apaisé et fraternel. Si vous en connaissez autour de vous, partagez-les. Ensuite, cessez de vivre sur l'ordre des choses inutiles, apprendre à déceler les pollutions les plus insidieuses, la malbouffe, les pesticides bien sûr, mais aussi le vacarme intérieur, la parole qui blesse, la rumeur ou des idées moches qui tournent dans nos têtes. Cessez de faire du quantitatif le dénominateur commun de tous nos actes. Envisagez le jeûne de consommation. Ce que l'agriculteur Pierre Rabhi, mort le 4 décembre dernier et dont on salue la mémoire, appelait la sobriété heureuse, comme une réponse au toujours plus que réclame notre société, plus de croissance, d'efficacité, de productivité, de compétition. Mais tout cela s'amène à quoi ? Moins d'amour, vrai et sincère. Retrouver un peu le goût de la privation, de la rareté des choses, pour rallumer la pleine conscience de vivre. Cela demande d'aller chercher dans la relation à l'autre, dans des amitiés sincères, dans des rapports de chair et d'os, et un monde de vie sain, la plénitude que ni la technologie ni la consommation ne peuvent offrir. Cela demande d'oser le silence qui est une saisissante contradiction dans notre monde affairé, bruyant et tourmenté. Osez réfléchir par vous-même. Et puis, pour finir, tant pis si je vous répète toujours la même chose. Il faut tout simplement, encore et toujours, remettre les deux mains dans la vie, dans la terre. Sentir, toucher, ramasser, planter, faire grandir les simples, la sauge, la bourrache. Car celui qui plante, plante plus grand que lui. Même si vous n'avez qu'un balcon, rien ne vous empêche de mettre des petites herbes aromatiques. Effectivement, car celui qui plante, plante plus grand que lui. Il plante aussi pour les abeilles, les oiseaux, pour le plaisir de celui qui passe et qui sourit devant cette beauté qui s'expose. Et finalement, Peu importe qu'on attribue au hasard ou à une volonté créatrice le visage infiniment varié des corolles. Car dans le fond, les fleurs, les plantes, la nature ne sont pour nous que de fabuleux prétextes à aimer. Nous sommes la nature dans son ensemble, la terre, la vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé. À très vite!